Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte les actualités de la pub, de la com et des médias sur BFM Business. Au sommaire de cette émission, Havas lance un scanner de développement durable pour les marques. Quelles nouveautés et quels enjeux pour 2023? Raphaël Deandréis, président Havas Village France et Europe, est notre invité en première partie d'émission. TikTok est de retour sur le tapis rouge du festival de Cannes cette année. Léo Dumas nous détaillera le dispositif dans son journal. Et puis cette semaine, Elisabeth Borne fête ses 1 an à Matignon. Comment est-elle perçue auprès des Français? C'est notre sondage réalisé par Harris Interactive pour BFM Business et pour Tilder de la semaine. Voilà le programme. Hebdo.com, ça commence tout de suite.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
En plateau avec moi, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour.
Bonjour Rebecca.
Et notre invité aujourd'hui, c'est Raphaël Deandréis. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président Havas Village France et Europe. Alors Havas, c'est le géant de la com et filiale de Vivendi. Vous avez réalisé une très belle année en 2022 avec 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en croissance par rapport à 2021. Et je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est sorti il y a quelques jours. Une étude qui est sortie il y a quelques jours par le baromètre unifié du marché publicitaire qui révèle que les recettes sont en léger recul au premier trimestre en France. Est-ce que vous, chez Havas, vous avez le même ressenti et à quoi on peut s'attendre pour 2023?
Je pense que le mot qui résume la situation, c'est incertitude. Je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir un pessimisme exagéré. Et il n'y a pas non plus d'indice particulier d'un rebond très fort. Donc moi, il me semble que l'incertitude, c'est ce qui qualifierait le mieux l'année qui arrive.
Quels sont les secteurs que vous sentez qui sont les plus touchés en ce moment?
Alors, on a aujourd'hui le secteur bancaire qui est plus attentiste, notamment parce qu'il est pris un peu en étau par le taux d'usure d'un côté qui l'empêche de délivrer des crédits à un certain niveau, et par le taux des crédits eux-mêmes qui font que les gens sont plus eux-mêmes attentistes. Donc le secteur bancaire, on le voit, est plus prudent.
Investi moins depuis le
absolument.
Mois de janvier.
Absolument. Très concrètement, investi moins depuis le début de l'année. On voit en revanche la grande distribution en particulier qui est un des moteurs de ce premier trimestre.
Et oui, Fred. Il y a des médias qui sont, enfin, si on regarde les médias sont pas traités de manière égale par les annonceurs, ce qui est logique, c'est en fonction de leur strate. Comment est-ce qu'aujourd'hui ça se dessine?
Dans les chiffres auxquels vous faisiez allusion, on voit que le New Kids on the Block, c'est l'affichage. Donc il y a un grand retour de l'affichage qui n'était jamais vraiment sorti de l'effet pandémie.
Ça se fait? Comment vous l'expliquez?
En fait, l'affichage, à un moment donné, comme il n'y avait plus personne dans les rues, a été le plus fortement impacté par les confinements successifs. Et puis aujourd'hui, l'affichage, je crois que vous receviez Jean-Charles Decaux sur cette antenne il y a quelques temps, l'affichage aujourd'hui est un média finalement qui parle à tous. Donc que vous soyez un jeune Gen Z ou même un teenager, ou que vous soyez un CSP+, de 75 ans, vous êtes exposé à l'affichage. Il n'y a plus tellement de médias qui font société à ce point. Et puis c'est un média qui n'est pas skippable, pas coupable. Et c'est un média aussi qui aujourd'hui s'achète de plus en plus en digital. Et donc on peut, selon les endroits, varier les messages. Donc c'est un média qui est à la fois le plus vieux du monde.
Et le plus moderne.
Et d'une grande modernité. Ce qui va assez bien aussi, c'est la radio. Parce que beaucoup d'opérations promotionnelles, et c'est un média qui ne fait pas que
le
ça.
Le retail surtout.
Absolument, tout à fait, le retail. Vous avez évidemment le digital qui continue, que ce soit les GAFA, mais aussi le réveil des médias qui se sont beaucoup transformés. Donc écoutez, voilà, schématiquement, on peut dire qu'il y a des hauts, des bas, mais enfin, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc on verra en fin d'année. Moi, je pense que ce sera une année relativement stable.
Et donc, affichage et radio.
Aujourd'hui, affichage radio digital. C'est le trio
et digital.
C'est en croissance dans ce premier semestre, tout à fait.
Et alors, est-ce que c'est vraiment au ralenti? Est-ce que ça repart pas depuis ces derniers jours, ces dernières semaines? Et est-ce que les annonceurs ont de quoi rebondir?
Nous, ce qui est prédictif de ce qui va se passer, c'est les projets. C'est-à-dire, est-ce que vous avez, au fond, avant de dépenser de l'argent en médias, il faut bien créer des campagnes, avoir des idées, des initiatives, des nouveaux produits, des innovations. Aujourd'hui, le pipe nouvelles idées, nouveaux produits, nouvelles campagnes, voire appels d'offres, qui souvent racontent une envie de lancer des nouvelles initiatives, aujourd'hui, il est très élevé. Donc, on n'a pas du tout d'indice avant-coureur d'une sorte d'arrêt, comme on a pu l'avoir à d'autres moments. Donc, aujourd'hui, moi, je suis plutôt raisonnablement optimiste, comme disent les Anglais.
L'année
ils n'aiment pas se mouiller.
L'année dernière, il y a un an pile d'ailleurs, vous avez lancé Avasplay, c'est une agence spécialisée dans le Web3 et le gaming, grâce à laquelle vous avez remporté plus de 150 prix. Là, vous lancez Avas Commerce, dédié aux acteurs de la distribution et au retail média. Pourquoi maintenant est-ce que vous attendez au même succès que pour Avasplay?
Alors écoutez, on l'espère en tout cas. Là, j'ai appris ce matin qu'on avait gagné un client important. Donc écoutez, c'est de bon augure.
On peut savoir qui?
Non. Je suis désolé, je vous le dirai bien volontiers. Mais oui, vous êtes dans votre rôle. J'ai failli me faire avoir d'ailleurs, donc bravo. Non, écoutez, aujourd'hui, nous, la réflexion qu'on a chez Avas, qu'on a eue pour Avas Play et qu'on a pour Avas Commerce, c'est de raisonner aux côtés de nos grandes verticales historiques, médias, on va dire créatives et santé, à une logique de solution à des problématiques clients. Avasplay, en gros, c'est on a la Gen Z qui ne consomme plus les médias comme personne et qui devient une vraie audience, une vraie cible commerciale. Et donc, on crée, à partir de ses comportements à elle, une agence qui ne sait pas si elle est créative, média, qui en a rien à faire et qui crée des objets qui, sur le gaming, qui, autour d'activation sur le sport ou le Web3, comme vous l'avez parfaitement dit. Ça, c'était Avasplay. Donc, on s'organise autour d'une nouvelle... on se transforme autour d'une nouvelle audience. H-Commerce, Avascommerce, c'est la même chose à partir des acteurs du retail ou des marques qui sont très fortement implantées en retail. Vous avez aujourd'hui, par exemple, un annonceur qui vous dit « Écoutez, moi, je veux réduire mes prospectus et les digitaliser. » Si vous regardez le marché à l'ancienne, ben, l'agence de pub va dire faut faire plein de pubs de haute fenêtre, l'agence média va dire faut faire du média comme si, l'agence digitale va dire ah ben, attendez, je vais tout vous mettre comme de cette manière, et vous allez avoir un problème finalement de parti pris, où vous allez partir de votre savoir-faire et pas du problème. Alors que la réalité, la solution, ce sera une combinaison des trois et voir d'autres solutions de measurement, de voir comment est-ce que tout ça finalement produit des ventes. Et donc, du coup, il faut prendre le sujet en termes de solution à un problème donné, et c'est l'idée.
Une sorte de hub, en fait, ça fonctionne un peu comme...
Absolument.
Parmi les solutions et les outils sur lesquels vont s'appuyer Avas Commerce, il y a M4, c'est un
tout
outil que vous avez lancé tout récemment également, qui permet de mesurer l'impact business et carbone des plans marketing. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que moi, je discutais un jour avec un directeur marketing qui me disait, je suis en fait dans une espèce d'injonction paradoxale insoluble, je dois créer de la valeur, faire des ventes parce que c'est ma vocation. Et en même temps, je suis rattrapé par la patrouille, au bon sens du terme, sur la consommation carbone de mes campagnes. Alors, je ne parle même pas des produits, de la logistique, ça c'est les autres services, mais le directeur marketing, lui aussi, et c'est très bien, on lui demande des comptes. Et donc, On avait une base chez Havas, chez CSA Data Consulting, un outil de d'économétrie, c'est-à-dire qui modélise les ventes à partir d'un plan marketing, et on a rajouté sur ce modèle des critères de consommation carbone en fonction du plan média. Donc concrètement, Rebecca, vous me dites, moi je veux vendre des chaises de jardin totalement écolo, hein, bien sûr, et puis vous me dites, voilà, moi j'ai 100 000 euros pour faire ma campagne et je voudrais limiter au maximum la consommation carbone de ma campagne. Mais donc je vais vous faire grâce à cet outil, on va vous faire grâce à cet outil chez Havas une combinaison de médias, donc il y aura un peu de BFM, il y aura un peu de telle radio, un peu d'affichage, un peu de digital, et pas forcément tous les sites digitaux, parce que tous les sites digitaux ne sont pas pensés de la même manière en termes de conso carbone, et on vous dira, ben voilà, vous, avec ce plan média là, vous allez faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en dépensant tel montant de tel poids de carbone, et si vous le faites selon notre recommandation, vous ferez aussi 100 000 euros chiffre d'affaires et vous dépenserez 15% de carbone en moins sur le plan média.
Donc c'est un outil de mesure, mais c'est pas un outil qui limite l'impact.
C'est un outil de pilotage, absolument. C'est un outil qui permet de limiter.
Et vous communiquez là-dessus à travers les plans de communication, parce que la RSE aujourd'hui dans la communication, elle est au cœur du sujet. Est-ce que vous communiquez avec cet outil?
Exemple, vous ne serez sans doute pas surprise de voir que le premier client qui a souscrit à ce nouvel outil, c'est Decathlon,
pardon.
Qui est un client qui est toujours extrêmement soucieux d'allier la performance économique avec la performance environnementale et sociale. Et donc, effectivement, et il y en a plein d'autres depuis qui ont rejoint l'outil.
Pour terminer, comment vous accompagnez les marques sur le digital et utilisez-vous l'intelligence artificielle ?
Alors, nous utilisons l'intelligence artificielle depuis longtemps, nous, et nos grands partenaires digitaux, hein, puisque quand vous avez des algorithmes auto-apprenants, en fait, c'est de l'intelligence artificielle. Là, on parle, j'imagine, de l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, on aborde ça d'abord avec... ça va bouleverser nos métiers, ça va nous condamner, ça va moyenniser les créations qui vont devenir, je dirais, la création moyenne sera un peu mieux, parce que elle va mais en revanche, on va avoir besoin plus que jamais de créations qui soient très émotionnelles, très originales, très fortes, et ça, à ma connaissance, il n'y a qu'un cerveau humain pour le faire.
Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business, Léo Dumas, qui remplace Julien Casqui cette semaine. Bienvenue Léo.
Merci Rebecca, bonjour.
Il va vous faire un petit questionnaire, 10 questions en rafale, 2 minutes.
Je crains le pire.
On lance le chrono, c'est parti.
Alors, Raphaël Deandris, pour vous informer au quotidien, plutôt journaux, radio ou réseau?
Je dirais journaux et BFM sur mon portable.
BFM Business?
BFM Business, évidemment, sur la partie business.
Et le meilleur média pour faire de la pub en 2023, selon vous?
La question, elle se pose pas en ces termes. Je pense que c'est toujours une combinaison.
Ok, du coup, l'avenir, si vous deviez choisir entre TF1 et TikTok?
Oh, j'ai une tendresse pour TF1.
TF1, d'accord. 3 ingrédients pour une bonne campagne de communication.
De l'analyse, de l'audace, de l'originalité.
Et de la RSE en 2023?
Et de la RSE, ça, de manière transversale sur tout ce qu'on fait.
Le rachat de Twitter par Elon Musk, bonne ou mauvaise chose pour les annonceurs?
Pour l'instant, les annonceurs se retirent. Mais les choses peuvent changer très vite. Mais aujourd'hui, on a un vrai sujet de fiabilité du média, quoi.
Les choses peuvent changer très vite avec ChatGPT, menace ou opportunité pour la pub?
Écoutez, il y a 2 mois, j'aurais pas su vous répondre. Aujourd'hui, je vous dis opportunité.
Yannick Bolloré, en 3 mots.
Courageux, positif et sympa.
Avant-dernière question, votre pire souvenir chez Havas?
Mon pire souvenir chez Havas, je pense que c'est le premier jour ou un des premiers jours du lockdown où j'ai pas pu m'empêcher d'aller au bureau qui était totalement vide. J'avais fait un truc pour dire que j'allais promener mon chien alors que j'ai pas de chien, parce que je ne sais pas quoi, comme un quincailler qui veut aller dans sa boutique, j'y suis allé. L'immeuble entier était vide et vous aviez même les tasses, vous savez, de café qui n'avait pas été encore débarrassé. Et là, je me suis dit, mais en fait, peut-être que tout est fini. Et donc, voilà, j'étais tout seul dans ce grand immeuble. Et d'ailleurs, j'ai croisé Yannick Bolloré, donc comme quoi... Voilà, chacun a besoin de se rassurer de façon proche.
C'est fini au chrono. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que pendant cette interview, il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose? Si oui, laquelle?
Bah, peut-être le rôle de la France dans l'industrie, dans les industries créatives.
Alors, quel est-il?
Bah, je pense que la France, sans être cocardier, tout en étant un fan de plein de cultures, je pense que la France apporte précisément à l'ère de l'intelligence artificielle une fantaisie, une originalité, une liberté et peut-être même, qui sait, un peu d'humanisme dans un monde créatif qui en a besoin.
Merci Raphaël Deandris, vous êtes président à Avas Village France et Europe, vous restez avec nous, c'est parti pour le journal de Léo Dumas.
BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
On commence avec l'ouverture du Festival de Cannes et le retour de TikTok sur le tapis rouge.
Et oui, pour la deuxième année consécutive, TikTok est partenaire de l'événement. Et le réseau social y déploie son opération TikTok Short Film, une compétition entre 40 courts-métrages publiés sur la plateforme. Ils seront départagés par un jury la semaine prochaine avec trois prix. Le grand gagnant, le meilleur script et la meilleure réalisation. Autre volet, TikTok a aussi invité une vingtaine de ses créateurs. On commence à les voir sur le tapis rouge, interroger les personnalités sur place. Et enfin, dernier volet du dispositif, une page est dédiée au Festival de Cannes sur l'application. Elle rassemble les meilleures vidéos de l'événement.
YouTube aussi s'intéresse au monde du cinéma. La plateforme annonce un partenariat avec MK2.
Et ils créent ensemble un ciné-club qui proposera des projections des contenus les plus populaires de YouTube dans les salles MK2. Des contenus inédits seront aussi dévoilés en avant-première. Dit YouTube qui souhaite encourager le retour en salle des publics les plus jeunes. Une bonne pioche sans doute pour MK2. Les créateurs cinéphiles cartonnent sur Internet. Dans un sondage, il y a deux mois, 62% des 18-35 ans déclaraient même que visionner une vidéo à propos d'un film sur YouTube leur donnerait envie d'aller le voir.
On l'a appris il y a quelques jours, Elon Musk a nommé la nouvelle CEO de Twitter. Il s'agit de Linda Yaccarino, une figure de la pub.
Et elle se concentrera sur les opérations commerciales. C'est ce que dit Elon Musk, qui lui restera président exécutif et CTO. Linda Yaccarino, elle, prendra ses fonctions dans quelques semaines, avec une fonction qui semble donc déjà claire, faire revenir les annonceurs. Elle est bien placée pour ça, hein, puisqu'elle était pendant 12 ans chargée de la publicité chez NBC Universal, où elle a fusionné les régies pub de toutes les chaînes du groupe et où elle a généré plus de 100 milliards de dollars de revenus publicitaires pendant son mandat. À l'occasion d'une conférence marketing il y a quelques semaines, elle a même interviewé Elon Musk et lui avait glissé une question sur sa relation avec les annonceurs. On l'écoute.
Revenons à la nouvelle politique de Twitter parce que, encore une fois, la liberté d'expression ne signifie pas la liberté des riches. Qu'est-ce que cela veut dire pour les annonceurs? Avez-vous réduit le risque que leur campagne de pub atterrisse au milieu de messages haineux? Of their campaigns landing in
these awful, hateful places. Voilà, c'est peut-être ce qui a convaincu Elon Musk de miser sur elle pour attraper les centaines d'annonceurs qui ont déserté Twitter depuis son rachat. Plusieurs analystes de Wall Street, en tout cas, ont salué cette embauche, Rebecca.
La bonne dynamique du marché publicitaire sur le digital, c'est ce sur quoi veut miser Molotov. La plateforme de streaming développe son offre de vidéos à la demande.
Oui, sur la VOD. Alors la VOD, c'est la vidéo en streaming financée par la publicité. Et Molotov s'enrichit en contenu avec plus de 10 000 heures de nouveaux programmes qui vont arriver sur la plateforme. Une offre plus féminine et plus familiale pour accroître ses audiences, mais aussi ses revenus publicitaires afin d'atteindre la rentabilité. Et pour ce faire, Molotov crée son propre réseau publicitaire, Molotov Advertising Network, afin de récolter de la data et d'offrir des campagnes encore plus ciblées.
Une agence de communication veut généraliser le congé menstruel en France.
Et oui, et vous avez reçu son président il y a quelques semaines, Rebecca. C'est l'agence MediaMonks Paris. Elle se revendique comme la première à avoir mis en place le congé menstruel pour ses employés, et ce dès 2021. Et elle appelle cette semaine les entreprises du secteur à lui emboîter le pas. Pour cela, elle met à disposition en open source toute une documentation juridique qui permet d'instaurer le congé menstruel dans son entreprise. Pour rappel, le congé menstruel consiste à mettre à disposition des femmes des congés payés supplémentaires à prendre pendant des périodes menstruelles douloureuses.
Et cela concerne une femme sur deux qui en souffre, selon un sondage IFOP. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, c'est une campagne maison.
Oui, celle de Coyote. Elle est produite par Altis Media Ads and Connect, la régie publicitaire d'Altis, maison mère de BFM Business. Dans cette opération nommée Route parallèle, Coyote met en scène l'importance de la data et la force du collectif. Deux épisodes ont été tournés. Le premier avec le rugbyman Grégory Aldrit, qui fait donc le parallèle entre son quotidien de sportif et son quotidien sur la route.
Je m'appelle Grégory Aldrit, je joue 3ème ligne centre au Stade Rochelet et en équipe de France. La beauté du rugby, c'est que s'il y a un seul joueur, c'est pas possible, ça marche pas. Le but, c'est de s'améliorer individuellement pour être au service du collectif. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, ça crée un équilibre et il faut que cet équilibre soit parfait.
Virage dangereux sur 200 mètres.
Et ce qui fait la force de Coyote, c'est le groupe aussi et le nombre d'utilisateurs qui utilisent l'application. Et nous, notre objectif principal, c'est prendre du plaisir.
Voilà pour ce premier épisode avec Grégory Aldrit, le rugbyman. Pour le prochain épisode, rendez-vous avec Esteban Ocon, le pilote de Formule 1.
Merci Léo pour ce journal. Frédéric, vous avez Coyote ?
J'ai pas Coyote, non, mais je regarderai avec intérêt l'épisode avec Esteban Ocon qui me touche un peu plus que les rugbyman, je dois être.
T'es un fan de voiture.
Un peu.
Raphaël et Andrés, vous avez Coyote, j'imagine.
J'ai Coyote, évidemment.
Merci encore d'avoir été avec nous. Vous êtes président d'Avas France et Europe, d'Avas Village France et Europe. C'est parti pour le Focus.com.
BFM Business, Hebdo.com, le Focus.com.
Cette semaine, la première ministre Elisabeth Borne fête sa première année à Matignon dans un certain climat de défiance à l'Élysée. Elle dit dans une interview accordée au JDD le week-end dernier que cette année fut intense. Un bilan évidemment sous le signe de la réforme des retraites, mais pas que, puisque 27 textes en tout ont été déposés. Et alors notre question de la semaine, c'est comment qualifiez-vous la communication d'Elisabeth Borne en tant que première ministre depuis son arrivée ? Réponse, les Français sont assez nuancés. Une personne sur deux l'estime claire et cohérente, mais pas vraiment moderne ni rassurante. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour nous, pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler en plateau avec nous, Charlotte Zen, associée chez Tilder, Fabrice Pelosi, directeur associé chez Epoca. Bonjour à tous les deux et merci d'être là.
Bonjour.
Charlotte, quels ont été les points forts et les points faibles pendant la communication d'Elisabeth Borne qui donne ce résultat pendant sa première année à l'Élysée ?
Oui, le principal point fort d'Elisabeth Borne, c'est sa technicité, c'est le fait qu'elle connaisse extrêmement bien les dossiers. On a beaucoup dit d'ailleurs que c'était plus une femme de dossier qu'une femme politique. C'est pas une militante, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à rentrer dans le fond des sujets. Et c'est ce que montrent ses résultats, parce qu'en fait, les Français considèrent qu'elle est très claire, qu'elle est très cohérente, donc qu'on peut avoir une certaine confiance dans la maîtrise des sujets qu'elle porte. Néanmoins, ce qui continue à pêcher, c'est l'incarnation, le charisme, l'image qu'elle dégage. Et ça se traduit notamment par des résultats assez décevants sur les questions de modernité et de confiance, sachant que le sujet de la confiance a sans doute été très érodé par toute la séquence retraite, par l'utilisation du 49.3 et peut-être là plus récemment par les frictions qui sont apparentes entre le président de la République et elle, et qui là aussi érode évidemment son image sur le terrain de la fiabilité et de la confiance en sa personne.
Fabrice, moins d'un Français sur deux accorde des qualités à la com de Madame Elisabeth Borne, mais est-ce que c'est vraiment un échec ?
Moi je trouve que compte tenu du contexte, c'est plutôt des très bons chiffres, puisque si on reprend l'un des derniers sondages sur la réforme des retraites, qui est quand même le gros sujet d'Elisabeth Borne depuis qu'elle est arrivée, il y a plus de 6 Français sur 10 qui sont contre. Avec des grosses problématiques de communication. On l'a vu avec Franck Riester qui se retrouve à avouer sur un plateau que la réforme va être plus compliquée pour les femmes, le problème de la communication à 1 200 €. Donc, très compliqué. Mais en plus, par ailleurs, Elisabeth Borne, ce n'est pas du tout l'ADN macronien. On l'a vu avec les deux précédents premiers ministres. On a eu Édouard Philippe et Jean Castex. Des grosses surprises. à chaque fois. Et puis, du coup, ce côté disruptif qui permettait aux médias aussi de se positionner, de dire qui est ce nouveau Premier ministre, qu'est-ce qu'il va faire. Et là, on est tombé dans quelque chose de totalement différent avec Elisabeth Borne, le choix par défaut, puisqu'on devait avoir Catherine Vautrin qui a été sortie à la dernière minute. Donc au final, c'est très compliqué. Et puis aussi, par ailleurs, pourquoi est parti Édouard Philippe la dernière fois ? Parce qu'il était trop populaire. Donc il ne faut pas faire d'ombre au président. Donc elle joue bien son jeu.
Elle suit aussi deux premiers ministres qui étaient assez chaleureux, qui avaient été employés pour ça, qui avaient une personnalité assez envahissante, quoi, en fait.
C'est vrai que le contraste avec Jean Castex et Édouard Philippe est en effet compliqué aussi à assumer pour elle, parce qu'elle n'a pas cette personnalité, vous le disiez, chaleureuse. C'est pas une femme de terrain, ce qu'on dit beaucoup de Jean Castex. Mais le sujet pour l'opinion, c'est aussi que c'est une femme. Ça faisait évidemment très longtemps qu'on n'avait pas eu une femme à ce poste, et elle pouvait pas être descendue en flammes par le président et par l'ensemble de la classe politique, parce que justement il fallait lui laisser le temps de faire ses preuves. Le sujet, c'est que là, ça fait un an cette semaine et qu'on sait que ces jours sont comptés, avec sans doute un remaniement au 14 juillet.
Oui, Fabrice ?
Je suis pas sûr. Si on prenait les paris, je vais dire l'inverse. Aussi parce que il y a eu une interview super intéressante dans Challenge aujourd'hui de la Première ministre, avec un point qui est important. Bon, déjà, elle a vu ses problématiques de communication, où elle dit qu'elle était très énervée par les bugs au moment de la réforme des retraites. Et puis le point le plus important, c'est que malgré la réforme des retraites, les responsables syndicaux aiment Elisabeth Borne. Donc on a plusieurs responsables syndicaux qui s'expriment dans ce papier et qui disent Elisabeth Borne, elle est cash, elle fait pas des coups par derrière. Quand on parle avec elle, elle connaît bien ses dossiers. Donc au final, il y a aussi un sujet, c'est que le président de la République, et plus globalement cette réforme des retraites, elle n'a pas été mise dans une vision plus large. Cette vision plus large, elle va certainement arriver avec ce nouveau monde du travail, comment on se positionne. Là, elle a une possibilité de rebondir, donc on verra si c'est le cas ou pas.
On prend les paris. Hein. Donc, résultat plutôt positif dans l'ensemble. Merci Fabrice Pelosi, vous êtes directeur associé chez Epoca. Merci Charlotte Eusen, vous êtes associé chez Tilder. Et évidemment, merci Frédéric Roy, mon acolyte, vous êtes rédacteur chez CB News. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout sur toutes nos plateformes et nos réseaux sociaux. Très bon week-end sur BFM Business.
Hebdo.com sur BFM Business.